Le comité pour la viande présente la viande et vous.
Rien ne vaut une balade dans une région d'élevage. Bonjour, je suis Troy McClure. Vous m'avez peut-être vu dans des films éducatifs comme 2-3 égale casse-tête chinois ou dans Pétard, le tueur silencieux.
Monsieur McClure!
Oh, salut Bobby!
Jimmy, je voudrais savoir comment la viande va du ranch à mon estomac.
Wow, wow, wow! Doucement, Jimmy. Là, tu t'attaques à un gros morceau. Tout commence dans cet enclos où les bêtes paissent en toute liberté. Ensuite, quand le troupeau est à point... C'est le moment où elles sortent diplômées de l'université bovine. Tu viens, Jimmy, on va jeter un coup d'œil au plancher qui tue. Ne te laisse pas impressionner par le nom, c'est pas vraiment un plancher. C'est plutôt une grille d'acier qui permet aux morceaux de passer à travers pour être ensuite collectés et exportés. Ça t'a donné faim, Jimmy?
Monsieur McClure, j'ai un copain complètement débile qui dit que c'est mal de manger de la viande. Est-ce qu'il est débile?
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
J'adore la bidoche. Par goût, mais peut-être et surtout par habitude familiale. Mes grands-parents, bouchers charcutiers à la retraite, mettaient un point d'honneur à nous ravitailler en viande à peu près toutes les semaines. Et puisqu'ils ont connu, adolescents, l'occupation et ses rationnements, ce temps sinistre de vaches maigres, il était inenvisageable pour eux, quand la paix était revenue, de ne pas manger chaque jour du bœuf, du jambon, du poulet ou du poisson. Et les jours de fête, tout cela tombait dans les assiettes, dans des quantités pantagruélique, avec forte incitation à se resservir. Il était incompréhensible pour eux de ne pas nous voir, mon frère et moi, embrasser goulûment ce régime carnivore que nos parents n'ont d'ailleurs jamais remis en question. Ma mère était même un peu mal vue, presque excentrique à leurs yeux, quand elle passait son tour sur la blanquette ou les fruits de mer, alors qu'elle n'aime pas tellement ça et qu'elle est issue d'une famille nombreuse qui n'avait clairement pas les moyens d'offrir tous les jours un steak à tout le monde. Par peur de manquer, dira-t-on, par chance aussi d'être né au sein d'une classe moyenne qui pouvait se le permettre, on se rembourrait donc, midi et soir, de protéines animales, sans y réfléchir, peinard, ivre de sang et de jus de cuisson. J'étais certain, je le crois encore un peu, que cela expliquait ma grande taille et ma bonne santé, puisque toute cette barbaque ingérée quotidiennement pendant 20 piges, presque à tous les repas et longtemps après, a sans doute musclé mes défenses immunitaires en me donnant les joues rondes et le teint rose d'un gentil petit cochon. Pour mes proches, j'ai toujours été ce garçon au généreux coup de fourchette, l'ogre du barbecue, le Kaiser des tartares, le roi rieur de la rillette, le gargantua de la raclette, le Depardieu du couscous brochette. Et, sauf en cas d'envie soudaine de perdre du poids, j'étais à peu près sûr que cela ne changerait jamais. Et puis, en 2011, j'ai lu un long passage, rien qu'une tranche, 8 ou 10 pages à peine, pas même le livre entier, de l'enquête de l'écrivain Jonathan Safran Foer, publié 2 ans plus tôt, intitulé « Faut-il manger les animaux ?», pour laquelle ce trentenaire new-yorkais a visité de nombreuses fermes d'élevage industriel, y compris de nuit, à l'insu des propriétaires, afin d'essayer de répondre à ces questions cruciales. Ainsi résumé par le journal Le Monde à la sortie de l'ouvrage, « Avons-nous le droit de faire souffrir et mourir des êtres vivants ?» pour le plaisir, alors que notre survie n'est pas en jeu. Pouvons-nous supporter sans honte la cruauté et les problèmes sanitaires qu'engendre cette recherche de profit frénétique? Dans son livre, Foer décrit 33 000 poulets, pataugeant dans leur propre merde, entassés côte à côte entre les quatre murs d'un enclos dégueulasse, avec pour chaque animal l'espace d'une feuille A4 et seulement 4 heures de sommeil quotidien, nourris automatiquement de médocs censés, paradoxe, les empêcher de crever avant d'être abattus au bout de 42 jours. des oiseaux stressés, blessés, infectés, paralysés, difformes, contaminés par leurs excréments, auxquels on administre, histoire de masquer le parfum de caca, des bouillons salés que nous en sommes venus à considérer comme l'aspect, l'odeur et le goût d'un poulet. Cette volaille que nous trouvons au supermarché, dans nos sandwichs, sous la croûte panée de nos chers nuggets super sympas. Et puis, le dérèglement climatique et la sensation d'effondrement généralisé est devenu le sujet ordinaire de nos conversations. Nous voici démunis, blêmes, face au péril environnemental mondial présenté comme irréversible. J'entends que le geste le plus concret pour endiguer le problème serait de réduire notre consommation de viande. J'essaie d'y consacrer au moins un jour par semaine, zéro bidoche le lundi, sous n'importe quelle forme, Meat Free Monday, comme le clame depuis des années mon héros Paul McCartney. Mais j'échoue, lamentablement. En partie à cause de mon éducation, en partie parce que je n'aime ni cuisiner ni faire le marché, en partie parce que je suis paresseux. Puisque c'est enraciné si profond dans mes habitudes socio-culturelles, au restaurant, je commande machinalement une saucisse au couteau, au bar, une planche de charcutes, tout comme j'attends Noël et son foie gras. Je crois également que je vais tomber malade, que je vais m'affaiblir, si je me découvre une passion suspecte pour le quinoa, tout en rêvant en secret de délicieux fast-food végétariens pas chers qui m'éviteraient d'acheter n'importe quoi au coin de la rue. Et puis, 10 ans après son livre sur les carnages de l'élevage industriel, Jonathan Safran Foer revient cet automne avec un nouvel essai autobiographique en forme d'alerte, au titre un peu rasoir, mais programmatique. « L'avenir de la planète commence dans notre assiette », paru aux éditions de l'Olivier. Un bouquin bizarrement fichu, hybride, alternant souvenirs familiaux, métaphores historiques, tunnels de statistiques scientifiques catastrophiques, démonstration des liens limpides, naturels et dévastateurs entre ces déforestations qui nous indignent et ce bétail massacré que nous engloutissons avec de la moutarde à l'ancienne et plaidoyer habile pour un changement progressif de régime alimentaire. Foer prévient. L'espèce humaine entière se menace d'un suicide de masse. Personne ne nous y force et nous avons le choix. Nous sommes en train de nous éliminer parce que choisir la mort est plus facile que de choisir la vie. Parce que nous croyons qu'un jour, un génie inventera une technologie miracle qui changera le monde, nous exemptant à transformer nos vies. Parce que le plaisir à court terme est plus séduisant que la survie à long terme. Il faut faire quelque chose, nous disons-nous les uns aux autres, en attendant des instructions. Nous attendons que nos voisins, ou le gouvernement, ou la Chine, ou le Brésil, ou le monde entier s'y mettent avant nous. Nous savons que nous choisissons notre propre fin, mais nous ne voulons tout simplement pas y croire. 5 extraits de ce livre, que je crois important, vont être lus dans l'heure, dans cette émission, pour lutter contre notre déni, pour apprendre à dire au revoir, petit à petit et sans trop de regrets, au hamburger, au kebab, au sushi, au sauciflard ou à la tartiflette. Car, comme le dit Jonathan Safran Foer, si chacun de nous discute avec soi-même, nous bâtirons une maison commune. Bonjour, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova que vous retrouvez chaque dimanche de 12h à 13h, tel un océan de sagesse, dans votre brunch. Démarrons avec le déni, justement, pour comprendre notre capacité à savoir que le dérèglement climatique existe sans pouvoir y croire. Jonathan Safran Foer évoque un épisode célèbre de la résistance polonaise.
Nova Book Box, c'est l'amour livre.
En 1942, un jeune catholique de 18 ans, engagé dans la résistance polonaise, Jan Karski, se vit confier une mission qui le conduisit à passer de la Pologne occupée par les nazis à Londres et ensuite en Amérique pour prévenir les dirigeants du monde du crime que les Allemands étaient en train de perpétrer. Se préparant pour ce voyage, il rencontra plusieurs groupes de résistants afin d'accumuler les informations et les témoignages à apporter à l'Ouest. Dans ses mémoires, il rapporte sa rencontre avec le responsable du Bund, l'Alliance socialiste juive. Le chef du Bund s'approcha de moi en silence. Il saisit mon bras avec une telle violence que j'en eus mal. Je plongeais le regard dans ses yeux fixes, ému par la douleur intolérable que j'y lisais. « Dis aux représentants des communautés juives qu'il ne s'agit pas de politique ni de tactique. Dis-leur qu'il faut ébranler la terre jusque dans ses fondations. Le monde doit être mis sans dessus-dessous. Peut-être alors qu'il se réveillera, comprendra, ressentira. Dis-leur qu'ils doivent trouver la force et le courage de faire des sacrifices auxquels aucun autre responsable politique n'a jamais dû consentir. Des sacrifices aussi douloureux et uniques que le sort des nôtres qui meurent. C'est exactement ce qu'ils ne comprennent pas. Les objectifs et les méthodes des Allemands sont sans précédent dans l'histoire. Les démocraties doivent réagir d'une façon qui soit, elle aussi, sans précédent. Choisir des méthodes de réponse inédites. Tu me demandes quel plan d'action je suggère aux représentants de la communauté juive ? Dis-leur de se rendre dans tous les bureaux et les sièges des organisations de premier plan en Angleterre et aux États-Unis. Dis-leur de ne pas quitter les lieux avant d'avoir obtenu des garanties que quelque chose a été décidé pour sauver les Juifs. Dis-leur de ne rien accepter à boire ou à manger, qu'ils acceptent l'agonie tandis que le monde les regarde, qu'ils meurent. Voilà qui pourrait secouer la conscience du monde. Après avoir survécu à un voyage aussi périlleux qu'on peut l'imaginer, Karski parvint à Washington en juin 1943. Là, il rencontra Félix Frankfurter, juge à la Cour suprême, un des plus grands esprits juridiques de l'histoire américaine, lui-même juif. Après avoir entendu le récit de Karski sur l'évacuation du ghetto de Varsovie et sur l'extermination des camps de la mort, après lui avoir posé une série de questions de plus en plus précises,
quelle est la hauteur du mur qui sépare le ghetto du reste de la ville ?
Frankfurter arpenta le bureau en silence, s'assit dans son fauteuil et déclara
« Monsieur Karski, un homme comme moi, quand il s'adresse à un homme comme vous, doit être totalement franc. Il me faut donc vous dire que je ne crois pas à ce que vous m'avez raconté. »
Quand celui qui accompagnait Karski plaida la cause du résistant polonais auprès du juge, ce dernier répondit
« Je n'ai pas dit que ce jeune homme mentait. J'ai dit que je ne parvenais pas à le croire. Mon cerveau, mon cœur sont faits de telle façon que je ne peux pas l'accepter. »
Frankfurter ne remettait pas en question la véracité du témoignage de Karski. Il ne contestait pas le fait que les Allemands étaient en train d'assassiner systématiquement les Juifs d'Europe, sa propre famille. Et il n'expliquait pas non plus, aussi convaincu et horrifié qu'il fût, qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire. À la place, il mit en avant son incapacité à croire à la vérité et insista sur la pleine mesure qu'il prenait de cette incapacité. La conscience de Frankfurter n'avait pas été secouée. Le problème que pose la crise planétaire est qu'elle se heurte à un certain nombre de préjugés d'apathie intrinsèques. Bien que plusieurs des désastres accompagnant le dérèglement climatique, phénomènes météorologiques extrêmes, inondations, incendies non maîtrisés, exil des populations et réduction des ressources, pour citer les plus notables, comportent une dimension à la fois personnelle et spectaculaire, et suggèrent une situation sans cesse en train de s'aggraver. Ils n'apparaissent pas comme tels, à cause de leur accumulation même. Ces catastrophes sont perçues comme abstraites, lointaines, isolées, plutôt que comme les différents fils d'intrigue d'un récit à l'intensité toujours croissante. Ceux qu'on appelle les adversaires de la théorie du dérèglement climatique rejettent les conclusions auxquelles sont arrivés 97% des scientifiques. La planète se réchauffe à cause des activités humaines. Mais qu'en est-il de ceux d'entre nous qui, disons, accepter l'idée que ce changement est lié à des facteurs humains? Nous ne pensons peut-être pas que les climatologues mentent, mais sommes-nous capables de croire ce qu'ils nous disent? Si nous admettons une réalité factuelle, notre responsabilité dans la destruction de la planète, mais que nous demeurons incapables d'y croire, nous ne valons pas mieux que ceux qui refusent de voir l'implication humaine dans les changements climatiques. Exactement comme Félix Frankfurter ne valait pas mieux que ceux qui niaient la réalité de la Shoah. quand l'avenir distinguera ces deux sortes de déni. Lequel apparaîtra comme une erreur grave, lequel comme un crime impardonnable.
Nova Book Box, sous les couvertures, des personnages au poil.
Et tout de suite, avant la prochaine lecture, voici ce cha-cha-cha de 1961, intitulé « Les tomates » et interprété par Jacques Harry, de son vrai nom Henri Baugère, acteur français et comique chansonnier dans la veine de Fernandel, qui nous encourage ici, avec force argument, à nous nourrir de tomates.
Mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé. Les acrobates, les pêcheurs, les diplomates, les boxeurs. Délaisse les patates pour se fouiller garbate. La tomate en salade, tomate farcie. À l'opéra, en chantant la Tosca. Un grand ténor ayant manqué le la. En reçu ce soir-là, des tas. Sa femme en sortant de là le consola. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine A, B, C, c'est bon pour la santé.
Superstar du potager, ouais. Déconseillé aux femmes enceintes et aux personnes âgées,
okay.
Toujours prêt lorsque ses amis les légumes sont en danger,
ha.
Super héros végétal électroménager. Il parle comme nous, mange de la viande animale comme nous, va aux toilettes comme tous les êtres humains. Et lorsqu'il se masturbe, il utilise ses deux mains. Il n'a pas peur du lendemain. Son nom c'est Légumane. Et dès qu'il aperçoit un végétarien, il lui éclate le crâne. Les animaux mangent les hommes, voilà pourquoi les hommes mangent les animaux. Pourtant aucun être humain ne s'est jamais fait dévorer par un haricot. Et Légumane est dégueulasse, il élève des asticots dans son nombril et il pénètre des prostituées avec des artichauts. Porno style, hardcore amateur, filmé à l'aide d'une caméra numérique. Légumane est aussi un ancien fumeur de crack, alcoolique. Il est l'ami des enfants, il leur apprend à respecter les légumes. Il est très élégant dans son costume, lorsqu'il mourra il faudra lui faire un album posthume.
Légumane, superstar du potager, déconseillé aux femmes enceintes et aux personnes âgées. Toujours prêt lorsque ses amis les légumes sont en danger. Super héros végétal électroménager.
Légumane, féculent et céréal, succulent et cérébral, virulent, impénétrable.
Le super-héros des légumes, Légumane, prêt à botter le cul des salauds qui mangent des légumes, les véganes. C'est un tout petit fragment de ce titre en version a cappella par les rappeurs ludiques de TTC. C'était, waouh, il y a déjà 19 ans. Poursuivons, chères auditrices, chers auditeurs, notre plongée dans l'essai autobiographique de l'américain Jonathan Safran Foer, « L'avenir de la planète commence dans notre assiette », publié aux éditions de l'Olivier.
Nova Book Box, particulièrement élémentaire.
Le conseiller scientifique de Tony Blair a déclaré qu'avec ce qui se passe en ce moment au Groenland, il faudra refaire les cartes du monde. Si le Groenland se disloquait et fondait, ou si la moitié du Groenland et la moitié de l'Antarctique ouest se disloquaient et fondaient, voici quelle serait l'élévation du niveau de la mer en Floride. La Hollande, les Pays-Bas, un véritable désastre. Calcutta et à l'est le Bangladesh, la zone immergée compterait 60 millions d'habitants. Pensez aux conséquences d'un exode de 200 000 réfugiés lorsqu'il se produit une catastrophe écologique. Imaginez qu'il soit 100 millions ou plus.
Le film d'Al Gore, intitulé « Une vérité qui dérange », a été pour moi une révélation intellectuelle et émotionnelle. Quand, après la dernière image, l'écran est redevenu noir, notre situation me semblait parfaitement claire, de même que la responsabilité qui était la mienne de participer au combat. À l'instar des dizaines de milliers d'Américains qui s'étaient précipités dans les bureaux de conscription en entendant la nouvelle de l'attaque de Pearl Harbor, j'ai ressenti l'urgence de m'engager. Mais quand le générique du film a défilé, au moment où a jailli l'envie enthousiaste de faire le nécessaire pour lutter contre l'apocalypse imminente que Gore venait de décrire, des suggestions d'action sont alors apparues à l'écran.
Êtes-vous prêt à changer votre façon de vivre ? La crise climatique peut être résolue. Voici par où commencer.
Dites à vos parents de ne pas détruire le monde dans lequel vous vivez.
Si vous êtes parents, joignez-vous à vos enfants pour sauver le monde dans lequel nous vivons et où ils vivront.
Adoptez des sources d'énergie renouvelables.
Téléphonez à votre fournisseur d'électricité pour savoir s'il propose une énergie verte.
S'il vous dit que non, demandez-lui pourquoi.
Votez pour des dirigeants qui s'engagent à résoudre cette crise.
Écrivez aux parlementaires. S'ils ne vous écoutent pas, présentez-vous aux élections.
Plantez des arbres, beaucoup d'arbres.
Prenez la parole dans votre communauté.
Téléphonez aux radios et écrivez aux journaux.
Exigez que votre pays gèle ses émissions de CO2.
Participez aux efforts internationaux pour mettre fin au réchauffement de la planète.
Et si vous croyez en la prière, priez pour que les gens trouvent la force de changer.
La force de changer.
J'ai trouvé cette liste, du fait de son caractère vague, terriblement frustrante. Appeler les radios, pour leur dire quoi exactement, dans quel but? Je l'ai jugé inefficace. Je peux dire à mes parents de ne pas détruire le monde dans lequel je vivrai, et ils peuvent dire la même chose, mais à un moment ou à un autre, est-ce que quelqu'un ne doit pas prendre effectivement les choses en main? J'ai trouvé cette liste totalement irréaliste. Bonjour, monsieur le président. Oui, c'est moi. Désolé de vous avoir fait attendre, j'étais en train d'aider les agriculteurs à développer le bioéthanol. Mais maintenant je vous ai au bout du fil, j'insiste, hein, pour que... Il faut que notre pays gèle les émissions de CO2. C'est bien de prendre la parole, de recycler, de planter des arbres. Beaucoup d'arbres. Ces activités sont louables. D'après une analyse de 2017, recycler et planter des arbres font partie des choix personnels les plus souvent recommandés pour combattre le dérèglement climatique. Mais ce ne sont pas des actions d'un grand impact. Il s'agit de sentiments plus que d'actions. D'autres sont considérées comme importantes, mais d'un impact négligeable. Installer des panneaux solaires, économiser l'énergie, consommer des produits locaux, composter, faire sa lessive à l'eau froide et la faire sécher sur un étendoir, être sensible à l'accumulation d'emballages, acheter de la nourriture bio, remplacer une voiture conventionnelle par une voiture hybride. Ceux qui font ces efforts, et seulement ces efforts, se contentent de prononcer le mot « chaos » devant la cible de leur coup. On remarque une omission criante dans la liste d'Al Gore. Et cette absence se reproduit dans le film qui a suivi, une suite qui dérange le temps de l'action, à une très légère exception. On peut accuser Al Gore d'une forme d'ignorance radicale ou de faute professionnelle. Cette erreur est équivalente à celle d'un médecin prescrivant de l'exercice physique à un patient en train de se remettre d'une crise cardiaque sans lui préciser aussi qu'il faut qu'il arrête de fumer, sans lui conseiller de réduire son stress, de cesser de manger des hamburgers et des frites deux fois par jour. Alors pourquoi Al Gore a-t-il délibérément choisi de passer ce point sous silence? Ce point que je ne vais pas tarder à citer. Par peur, de façon presque certaine, par peur de créer une controverse inopportune qui émousse l'enthousiasme qu'il était en train de susciter. Ce geste quotidien que nous pourrions tous accomplir a également été longtemps absent des sites internet des organisations écologistes les plus influentes, bien qu'aujourd'hui ce soit en train de changer. Aucune mention non plus de ce geste dans le célèbre ouvrage « Sombre prédiction » écrit par deux climatologues pour informer les citoyens au sujet du cinquième rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, publié en 2014. Après avoir prophétisé des désastres climatiques majeurs, les auteurs nous conseillaient de remplacer les sèches-linges électriques par des étendoirs et de nous rendre au travail à vélo. Parmi leurs suggestions, aucune mention de ce geste quotidien qui, selon le directeur du projet Drawdown, qui a rassemblé près de 200 scientifiques spécialistes de l'environnement et d'experts internationaux dans le but d'identifier et de mettre en place les solutions les plus efficaces pour lutter contre le dérèglement climatique, aucune mention de ce geste qui serait la plus importante contribution que peut faire chaque individu pour inverser le réchauffement de la planète. Je vais appeler un chat un chat. Nous ne pouvons pas sauver la planète si nous ne réduisons pas de manière significative notre consommation de produits d'origine animale.
Nova Book Box. Allez, sois chou, lis-moi un bout.
I'm gonna be round my vegetables. I'm gonna chow down my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. Vegetables cart off and sell my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. I tried to kick the ball, but my tinny flew right off. I'm red as a beet, 'cause I'm so
Vegetables. Cette chanson pro-légumes des Beach Boys, parue sur l'album Smile et Smile en 1967, chanson que Brian Wilson a écrite au moment où il était obsédé par le fait d'améliorer son corps, de manger sain, équilibré et croustillant détail, c'est Paul McCartney qu'on entend croquer du céleri, c'est d'ailleurs la seule partie rythmique du morceau. Merci Michaelio pour l'anecdote. Après mon livre « Faut-il manger les animaux ?» publié en 2009, j'avais l'impression d'avoir dit assez sur le sujet, mais je sentais au fond de moi un malaise parfois intolérable quand je pensais au changement climatique. J'essayais de travailler sur un roman, en profitant de la vie, mais en même temps, je m'inquiétais de la réalité du changement climatique et je me voyais ne rien faire. Je me sentais déprimé à l'idée de ne pas être en accord avec mes convictions, alors je me suis dit « Assez !» Je vais être sérieux, la meilleure chose à faire, c'est d'écrire. Contrairement à la dernière fois, contrairement à « Faut-il manger les animaux ?», je n'avais pas de thèse à asséner, de chiffres à révéler. Il fallait juste que je raconte cette bataille, livrée à l'intérieur de moi-même. Alors je me suis laissé guider par ma curiosité et mes digressions. Voici un troisième extrait de l'essai de Jonathan Safran Foer, « L'avenir de la planète commence dans notre assiette ». Bon appétit.
Nova Book Box. Le jukebox littéraire de Radio Nova.
Ce livre est un plaidoyer pour nous engager collectivement à manger différemment. En particulier, aucun produit d'origine animale avant le dîner. Rien avant le repas du soir. C'est une position difficile à défendre parce que le sujet est épineux et qu'il résonne par avance des sacrifices qu'il entraînera. La plupart des gens aiment l'odeur et le goût de la viande, le goût et l'odeur des produits laitiers et des œufs. La plupart des gens attachent de l'importance au rôle que les produits d'origine animale jouent dans leur vie et ne sont pas prêts à adopter de nouveaux comportements alimentaires. La plupart des gens ont passé leur vie entière à manger des produits d'origine animale, pratiquement à chaque repas. Et il est toujours difficile de changer les habitudes de toute une existence, même quand elles ne sont ni associées au plaisir, ni génératrices d'identité. Il s'agit de défis significatifs qui non seulement valent la peine d'être reconnus, mais qu'il est également impératif de reconnaître. Modifier la façon dont nous nous alimentons est certainement plus simple que de transformer le réseau électrique du monde entier, ou que de vaincre l'influence des lobbyistes puissants pour faire passer des lois sur la taxation du carbone, ou que de ratifier un traité international important sur les gaz à effet de serre. Mais, au fond, ce n'est pas simple. À peine passé la trentaine, je me suis consacré pendant 3 ans à des recherches sur l'élevage industriel. Et j'ai écrit un livre pour le condamner. Ce livre s'intitule « Faut-il manger des animaux ?». Ensuite, durant près de 2 ans, j'ai fait des lectures publiques, donné des conférences, des interviews sur le sujet, défendant l'idée que la viande produite par l'élevage industriel ne devait pas être consommée. Par conséquent, il me serait beaucoup plus facile aujourd'hui de ne pas confier que pendant des moments durs, au cours des 2 dernières années, tandis que je traversais dans ma vie personnelle des passes difficiles et que je sillonnais le pays pour vendre un roman, alors que j'étais tout sauf dans l'état d'esprit qu'il fallait pour assurer ma promo, j'ai mangé de la viande un certain nombre de fois, en général des hamburgers, souvent dans des aéroports. En d'autres termes, de la viande produite précisément dans le genre d'exploitation contre lesquels je me suis élevé le plus énergiquement. Et la raison pour laquelle je l'ai fait rend mon hypocrisie encore plus pitoyable. J'y trouvais du réconfort. J'imagine par avance que cette confession provoquera des commentaires ironiques et fera lever des yeux au ciel et qu'on m'accusera sérieusement de malhonnêteté intellectuelle. D'autres lecteurs jugeront sans doute cela sincèrement dérangeant. J'ai longuement écrit, et non sans passion, sur la façon dont l'élevage industriel torture les animaux et détruit l'environnement. Comment ai-je pu faire de mes enfants des végétariens alors que je mangeais de la viande pour y trouver du réconfort ? J'aurais aimé puiser ce réconfort autre part, dans quelque chose de plus durable, et qui n'aurait pas été un blasphème contre mes convictions. Mais je suis ce que je suis, j'ai fait ce que j'ai fait. Même lorsque je travaillais à ce livre et que je voyais mon credo végétarien, une position dictée par la question du bien-être animal, renforcée par la pleine conscience du prix à payer par l'environnement, il s'est rarement passé un jour sans que j'aie envie de manger de la viande. Je me suis parfois demandé si mon rejet intellectuel de plus en plus fort n'avait pas occasionné un désir accru d'en consommer. À d'autres moments, il m'a simplement fallu accepter le fait que si les actions peuvent constituer, dans une certaine mesure, des réponses aux injonctions de la volonté, ce n'est pas le cas des désirs. Il m'est presque insupportable de devoir avouer ces comportements d'une hypocrisie extrême. Je me sens pourtant obligé de le faire. Tandis que j'assurais la promotion de « faut-il manger les animaux ?», on m'a souvent demandé pourquoi je n'étais pas vegan. L'argument du bien-être des animaux et les arguments écologistes contre les produits laitiers et les œufs sont identiques à ceux qu'on oppose à la viande. Ils sont même parfois plus forts. Je me cachais quelquefois derrière la complexité de faire la cuisine pour mes deux enfants difficiles. Des fois, je déformais la vérité et je me décrivais comme effectivement vegan. En fait, je n'avais pas de réponse. J'avais juste honte. Mon désir de manger du fromage et des œufs était plus fort que mon engagement à proscrire la cruauté envers les animaux et à mettre fin à la destruction de l'environnement. Je trouvais un certain soulagement à cette tension quand je conseillais aux gens de faire ce que je ne parvenais pas à faire moi-même. Je n'arrive pas à envisager un avenir dans lequel je déciderais de manger à nouveau de la viande. Mais je ne peux pas en imaginer un dans lequel je n'aurais pas envie d'en manger. Consommer en conscience sera l'un des combats qui définiront et construiront ma vie. Le dérèglement climatique est la plus grande crise à laquelle l'humanité ait jamais eu à faire face. Et c'est une crise qui devra toujours être simultanément abordée, ensemble, et affrontée de façon individuelle. Il est impossible de garder les repas tels que nous les avons connus et de conserver en même temps la planète telle que nous l'avons connue. Il nous faut soit renoncer à certaines habitudes, soit renoncer à notre planète. C'est aussi simple et complexe que ça. Où étiez-vous quand vous avez pris votre décision?
Nova Bookbox, l'hôtel du livre-échange.
Et tout de suite, pause musicale dans ce menu végano-littéraire, voici le très bref Be Healthy des rappeurs US de Dead Prez, paru en 2000 sur leur premier album. Je ne mange pas de viande, de produits laitiers, de bonbons. Le morceau comprend plein de petites astuces pro-végétariennes, plutôt inattendues dans le hip-hop. La soupe de lentilles, c'est un fruit pour l'esprit. Les racines de gingembre, c'est bon pour la jeunesse. Attention à la façon dont tu prépares et assaisonnes ta bouffe, car il ne faut pas perdre les vitamines et les minéraux. Yo! All love.
Only ripe vegetables, fresh fruit and whole wheat. I'm from the old school, my household smell like soul food, bruh. Curry falafel, barbecue tofu. No fish though, no candy bars, no cigarettes. Only ganja, fresh squeezed juice from oranges. Exercising daily to stay healthy. And I rarely drink water out the tap cause it's filthy.
Lentil soup is mental fruit and Ginger root is good for the youth. Fresh vegetable with them Italian stew. Sweet yam fries with the green callaloo. Careful how you season and prepare your foods, cause you don't wanna lose vitamins and minerals, and that's the jewel. Life brings life, it's valuable. So I eat what comes from the ground, it's natural. Let your food be your medicine, no excedrin. Strictly herb generates from the sun, cause I got melanin and drink water. 8 glasses a day, cause that's what they say.
They say you are what you eat, so I strive to eat healthy. My goal in life is not to be rich or wealthy, cause true wealth comes from good health and wise ways. We got to start taking better care of ourselves. They say you are what you eat, so I strive to eat healthy. My goal in life is not to be rich or wealthy, cause true wealth comes from good health and wise ways. We got to start taking better care of ourselves. Be healthy, y'all.
Qu'est-ce qu'il y a, Lisa? T'as pas cette côtelette d'agneau?
Je peux pas manger ça, je peux pas manger un pauvre petit agneau.
Ressaisis-toi un peu, Lisa, c'est de l'agneau, pas un agneau.
Quelle différence il y a entre cet agneau et celui qui m'a fait des bisous?
Celui-là a passé une heure sur le grill.
Bart, mords délicatement. D'accord, Lisa, si tu veux pas de côtelette d'agneau, je peux faire des tas d'autres choses. Des cuisses de poulet, du rhum steak, des hot dogs.
Non, je peux pas. Je peux rien manger de tout ça.
Attends voir. Lisa, chérie, tu veux dire que tu mangeras plus jamais d'animaux de ta vie? Et du bacon?
Non.
Du jambon?
Non.
Des côtes de porc?
Papa, tout ça, ça provient du même animal.
Oh, oui, c'est vrai, Lisa. Un animal magique, fabuleux.
Je suis d'accord avec Lisa, manger de la viande, c'est mal.
Un extrait de ce célèbre épisode des Simpsons dans lequel Lisa devient végétarienne. Pour lui faire plaisir, parce que je suis sûr qu'ils sont copains, Lisa et lui, voici un quatrième extrait de L'avenir de la planète commence dans notre assiette, l'essai de l'écrivain américain Jonathan Safran Foer, qui enseigne par ailleurs l'écriture à l'Université de New York.
Putain, où sont mes lunettes? J'ai encore perdu mes lunettes. Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi?
Si on prend en compte les mécanismes naturels qui influencent le climat, l'activité humaine est responsable à 100% du réchauffement de la planète qui s'est produit depuis le début de la révolution industrielle en 1750 environ. Si l'histoire de l'humanité était rapportée à une journée, nous étions des chasseurs-cueilleurs jusqu'à minuit moins 10. Les humains représentent 0,01% de la vie sur Terre. Depuis l'apparition de l'agriculture, il y a environ 12 000 ans, les humains ont détruit 83% des mammifères sauvages et la moitié des plantes. À l'échelle de la planète, les humains utilisent 59% de toute la terre fertile pour nourrir le bétail. Un tiers de toute l'eau douce que les humains utilisent est destiné au bétail, alors qu'un 1/30 environ seulement est utilisé dans les habitations. 60% de tous les mammifères de la Terre sont des animaux qu'on élève pour l'alimentation. On compte approximativement 30 animaux de ferme par être humain sur la planète. Avant la révolution industrielle, l'espérance de vie en Europe était d'environ 35 ans. Elle est aujourd'hui de 80 ans. Il a fallu 200 000 ans pour que la population humaine atteigne le premier milliard, mais seulement 200 ans de plus pour atteindre 7 000. Chaque jour, naissent 360 000 bébés, la population de Florence environ. La ferme industrielle est une invention des années 1960. Avant, les animaux d'élevage passaient leur vie à l'extérieur, avec une densité supportable. Entre 1950 et 1970, le nombre de fermes américaines a baissé de moitié. Le nombre d'agriculteurs employés dans l'élevage a baissé de moitié. Et la taille d'une exploitation moyenne a doublé. Durant cette période, la taille moyenne d'un poulet a aussi doublé. En 2018, plus de 99% des animaux consommés en Amérique avaient été élevés dans les fermes industrielles. Les gens qui suivent des régimes alimentaires riches en protéines animales ont 4 fois plus de chances de mourir du cancer que ceux qui observent des régimes à faible teneur en protéines. Les 4 choses qu'un individu peut faire pour s'attaquer au dérèglement climatique sont les suivantes. Adopter un régime à base de plantes, éviter l'avion, vivre sans voiture, avoir moins d'enfants. 85% des Américains vont au travail en voiture. Peu de conducteurs peuvent tout simplement décider de cesser d'utiliser leur véhicule. De ces quatre actions suscitées, seule l'adoption d'un régime à base de plantes répond au problème du méthane et du protoxyde d'azote, deux gaz à effet de serre d'une importance capitale. La plupart des gens ne se posent pas la question de décider s'ils veulent ou non avoir un enfant.
Box. Nova te mince la tête avec des mots très doux.
Poulet numéro 728120. Poulet de Vendée. Élevé en plein air, 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté avec 75% de céréales. Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent. Électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52 francs 55 chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré le poulet. Mon poulet numéro 728120. Je t'aime. Je pense à toi.
Le reggae californien de Jason avec Lutan Faya et Race Attitude et leur hymne végétarien No Bones, No Blood en 2006. Allez, vous reprendrez bien une dernière bouchée de l'essai autobiographique de Jonathan Safran Foer. L'avenir de la planète commence dans notre assiette. Oui, ok, miam miam.
Nova Book Box, c'est l'amour livre.
Quel est le contraire d'un type qui mange de la viande, des produits laitiers et des œufs ?
Un vegan.
Non, le contraire d'une personne qui mange beaucoup de produits d'origine animale, c'est quelqu'un qui fait attention à la fréquence à laquelle il en consomme. La meilleure façon d'éviter de se confronter à un défi, c'est de prétendre qu'il n'y a qu'une seule solution de rechange.
Développe, nous avons tout notre temps.
Ok, notre façon de nous laisser obnubiler par les énergies fossiles nous conduit à représenter visuellement la crise planétaire sous forme de cheminées de hauts fourneaux et d'ours polaires. Ce n'est pas que ces choses soient sans importance, mais en tant que mascotte de notre crise, elles nous ont donné l'impression que notre planète est une usine et que les animaux les plus concernés par le dérèglement climatique sont sauvages et loin de nous. Non que cette idée soit fausse, mais de façon désastreuse, elle est contre-productive. Nous n'aborderons jamais sérieusement la question du dérèglement climatique, nous ne sauverons jamais notre maison tant que nous n'aurons pas accepté que notre planète est une ferme. Cette rectification est mon point de départ.
J'ai l'impression que tu vas me parler du Bangladesh.
C'est vrai. Pense au Bangladesh, le pays généralement considéré comme le plus vulnérable au changement climatique. On a estimé que 6 millions de Bangladais ont déjà été forcés au déplacement à cause des catastrophes environnementales telles que les ondes de tempête, les cyclones tropicaux, les sécheresses, les inondations, et que plusieurs millions encore seront poussés à l'exil dans les années à venir. L'élévation du niveau des mers escomptée pourrait submerger un tiers du pays, déracinant entre 25 et 30 millions d'individus. Le Bangladesh a l'une des empreintes carbone les moins importantes au monde, ce qui signifie qu'il est le moins coupable de la plupart des catastrophes qui l'affectent. Il se trouve que le Bangladesh est aussi l'un des pays les plus végétariens au monde. Il s'y consomme en moyenne 4 kg de viande par an et par habitant. En 2018, alors que le Finlandais moyen consommait allègrement cette même quantité sur une période de 18 jours, sans compter les produits de la mer. Des millions de Bangladais font donc les frais d'un mode de vie opulent qu'ils n'ont jamais connu. Les terres qui pourraient alimenter les populations affamées sont à la place réservées au bétail, destinées à engraisser des populations déjà suralimentées. Quand on pense au gâchis de nourriture, il nous faut cesser de nous représenter des repas à moitié terminés et à la place nous concentrer sur les déchets qu'implique le transport des aliments jusqu'à notre assiette. 26 calories peuvent être nécessaires pour nourrir un animal afin de produire une seule calorie de viande. Jean Ziegler, ex-rapporteur spécial auprès de l'ONU sur la question du droit à l'alimentation dans le monde, a écrit que transformer 100 millions de tonnes de céréales en biocarburant était un crime contre l'humanité dans un monde où presque 1 milliard d'individus meurent de faim.
On pourrait parler de ce crime comme d'un meurtre avec préméditation.
Voilà. Et ce que Jean Ziegler a omis de dire, c'est que chaque année, l'élevage engloutit plus de 7 fois cette quantité de céréales. Assez pour nourrir tous ceux qui ont faim sur Terre. Dans l'alimentation d'animaux que consommeront ensuite les habitants des pays riches. Ce crime-là pourrait s'appeler génocide. Alors non, l'élevage industriel ne nourrit pas le monde. L'élevage industriel l'affame en le détruisant.
Je suppose que cette argumentation est décisive.
Plutôt oui. Un geste simple pour commencer, ne consommer aucun produit d'origine animale avant le dîner. Les réductions préconisées ne seraient pas exactement atteintes, mais presque, et c'est facile à mémoriser.
Oui, mais c'est pas facile à faire.
Ok, il serait hypocrite et contre-productif de prétendre que manger seulement des aliments à base de plantes avant le dîner ne demanderait pas un certain effort. Mais je parie que quand la plupart des gens pensent aux repas qu'ils ont préférés au cours des dernières années, les repas qui leur ont apporté le plus de plaisir gustatif et le plus de plaisir social, ceux qui ont eu la plus grande importance culturelle ou religieuse, c'est pratiquement, dans tous les cas, des dîners. Il nous faut par ailleurs reconnaître que le changement est inévitable. Nous pouvons choisir de consentir à des modifications alimentaires ou bien nous serons les victimes d'autres changements. Immigration massive, maladies, conflits armés, diminution drastique de la qualité de vie. Mais il n'y aura pas d'avenir sans changement. Le luxe de choisir quel changement nous préférons a une date limite.
Et pour toi, le changement a-t-il été facile pour toi ?
Disons que je me suis fixé la date butoir du moment où j'aurai fini ce livre pour renoncer aux produits laitiers et aux œufs.
C'est une blague.
Pas du tout.
Tu veux dire que tu n'y as pas renoncé avant ?
J'ai même pas essayé.
Mais enfin, comment expliques-tu une chose pareille ?
Parce qu'il existe un contre-argument sur lequel je bute. Tout cela n'est peut-être qu'un fantasme. Certes, un fantasme qui s'appuie sur la science, un fantasme éthique, un fantasme irréfutable, mais un fantasme quand même. Un grand nombre de gens ne vont pas changer leur façon de manger. Certainement pas dans le temps qui nous est imparti. S'accrocher à ce fantasme est tout aussi dangereux que rejeter un plan viable.
Alors que réponds-tu à cela ?
Si le changement finit par arriver, ce ne sera pas grâce à un seul et unique facteur. Ça va exiger d'être inventif, créer des hamburgers végétariens qu'on ne pourra pas distinguer des hamburgers au bœuf, créer de nouvelles lois, comme réajuster les aides à l'agriculture et ne pas hésiter à faire payer un éleveur responsable pour les destructions environnementales qu'il provoque. Des prises de position de la base, comme les étudiants, qui exigent des cafétérias qu'elles ne servent pas de produits d'origine animale avant le dîner. Mais aussi un engagement du haut du panier, comme des célébrités qui diffusent le message que nous ne pourrons pas sauver la planète sans modifier notre façon de nous alimenter et...
Tu veux dire que personne en particulier ne pourra renverser le dérèglement climatique, que tout le monde doit s'en charger?
Exactement.
Tu es désespérant.
Seulement réaliste.
Tu veux dire qu'il est réaliste d'être désespéré?
Tu veux rire?
Vous n'avez plus le temps de lire? Nova chausse ses lunettes et vous ouvre les portes de sa très très grande bibliothèque.
Dead Meat, la jolie comptine du fils de John et Yoko, Sean Lennon, en 2006. Vais-je diminuer ma consommation de viande morte avant de devenir moi-même de la viande froide dans une planète de cendres? Honnêtement, chers auditeurs, je vous fais cette promesse que je vais tenter de tenir. L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Sullivan Clabo, avec l'aide de Tristan Guérin et Lucie Lossel. Programmation musicale, Mickaël Yo, Sophie Marchand et Baptiste Artru. Merci à Alexis Breton, Benoît Thuot et Marie Misset pour les voix additionnelles. La semaine prochaine, mon invité sera le journaliste et écrivain français Philippe Garnier, qui fut pendant 30 ans le correspondant de Libération à Los Angeles, spécialiste du cinéma de l'âge d'or d'Hollywood et des arrière-cuisines du 7e art. Par ailleurs, traducteur de John Fante ou de Bukowski. Philippe Garnier vient de publier une très belle biographie illustrée de l'acteur-écrivain Sterling Hayden, que vous avez peut-être vu dans Le Parrain, Le Privé, Docteur Folamour ou dans Quand la ville dort. C'est l'heure de la sieste, bon après-midi et à dimanche prochain, 12h, pour de nouvelles aventures littéraires. Et n'oubliez pas, comme l'a écrit Jodorowsky, d'une peau de tigre accrochée au mur, nous ferons des tigres.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.